Le guide suprême de la révolution islamique a rendu hommage au peuple iranien pour sa brillante participation à la grande épreuve électorale. Salvo de missiles Ghazavi, une DSA syrienne qui protège la résistance, et 16 militaires de l'armée turque ont été tués par les forces armées libyennes. C'était les titres, en voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, a rendu le dimanche 23 février un hommage appuyé au peuple iranien pour sa brillante participation à la grande épreuve électorale, sans manquer de souligner que l'Iran entier devra être vigilant, prompt à défendre le pays et à attaquer et à contre-attaquer, faisant allusion à la campagne d'intoxication et de propagande des médias mainstream où tous les coups ont été permis, y compris l'instrumentalisation politique du virus de Corona, pour dissuader les Iraniens d'aller voter, le leader a affirmé. Cette campagne hostile a commencé quelques mois avant les élections et s'est intensifiée à l'approche du scrutin et à 48 heures du vote a atteint son apogée, mais a échoué. Ayatollah Khamenei a salué le peuple iranien pour sa large participation aux législatives, qui a puissamment fait échec à la propagande hostile en se félicitant de ce que Dieu ait décidé de placer le peuple iranien dans le camp des victorieux. L'hostilité des ennemis du peuple iranien ne se limite pas aux domaines économiques, culturels et aux croyances religieuses ou aux idéaux révolutionnaires. Les ennemis s'opposent même à la tenue des élections en Iran parce qu'ils ne veulent pas que le droit de vote soit assimilé, de quelque manière que soit, à notre religion, sur quoi est basé notre système politique. En fait, la tenue d'élections en Iran contredit les allégations des ennemis selon lesquelles la religion est contraire à la liberté et à la démocratie. Le droit de voter en Iran prouve que la religion est l'essence même d'une démocratie tous azimuts, ce que démontre la tenue de 37 élections en Iran. Puis le leader de la révolution islamique a lancé un avertissement. Face à un camp adverse dont des milliers d'éléments sont actifs nuit et jour pour porter atteinte à l'Iran, notre camp à nous, composé de millions d'Iraniens, devrait être prompt à défendre le pays, à attaquer et à contre-attaquer. À peine quelques heures après la mort en martyr d'un jeune Palestinien, Khan Younes, abattu par l'artillerie israélienne, puis déchiqueté à coups de bulldozer, les brigades de Rots, branche armée du djihad islamique de la Palestine, a fait trembler Israël. Une vingtaine de missiles ont rappelé au régime sioniste qu'il lui est impossible désormais de verser le sang des combattants de la résistance sans avoir à en payer le prix fort. La frappe au missile contre Ashkelon a mis sans dessus-dessous les meetings électoraux dans cette colonie, poussant Benny Gantz à annuler son discours, le Dôme de fer étant une passoire non fiable. Quant aux colons sionistes, ils se sont vus contraints de s'enterrer dans des abris souterrains et ils risquent d'y rester encore pour longtemps. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, le régime israélien a cru bon de se défouler dans le ciel syrien et de prendre pour cible les positions de la résistance dans le sud de la capitale syrienne, sans soupçonner le moindre du monde qu'il aurait à faire face à une riposte ferme et homogène de la résistance. Une frappe au missile lancée à partir du Golan occupé s'est ainsi heurtée à la puissante riposte de la DSA syrienne qui a intercepté et abattu la plupart des engins israéliens. Idem pour une frappe au missile quasi simultanée du régime israélien contre l'Est de Gaza, à Ayal Tafa, entre Rafah et Khan Younes, qui, en dépit de 18 missiles tirés, a été contenu, ne provoquant que 4 blessés selon des sources palestiniennes. Sana affirme que la DSA syrienne a intercepté avant d'abattre la plupart des engins hostiles dans le ciel du sud de la capitale et qu'aucun des missiles n'a pu atteindre l'aéroport syrien et que de surcroît, les dégâts provoqués l'ont été par de rares missiles déviés de leur trajectoire. Tout ceci prouve qu'Israël se trouve bel et bien à la fin d'une époque. À vrai dire, de nombreux missiles tirés contre le sud de Damas visaient l'un des QG du djihad islamique de la Palestine et ils ont raté leur cible par une DSA syrienne alerte et prompte à agir. Alors que l'armée syrienne poursuit ses opérations pour libérer toute la province d'Idlib du joug des terroristes, les chasseurs russes sont en combat contre l'armée turque, grand supporter des terroristes opérant dans la région. les chasseurs russes Su-24 ont attaqué les chars et les blindés turcs à Idlib et Alep, détruisant ces derniers jours plusieurs véhicules de transport de troupes et au moins trois chars d'assaut. Les bombardiers russes, notamment les Su-24, ont jusqu'à présent détruit une trentaine de chars, une cinquantaine de véhicules blindés et une vingtaine de systèmes MLRS turcs. Selon une autre information, les bombardiers russes ont pris pour cible les positions des militaires turcs dans la base d'Al-Mastouma, au sud d'Idlib. Les chasseurs russes ont également détruit les positions des terroristes à Jabal al-Zawiya et Jabal al-Arbaïn, dans le sud d'Idlib. Les repères des terroristes à Kafr Nabl, Fatera et Marzita ont été aussi pris pour cible des avions de combat russes. Entre-temps, des sources d'informations syriennes ont fait part de l'avancée considérable de l'armée syrienne sur l'axe de Sheikh Damas, à proximité de Kafr Sinja. L'armée a aussi expédié forces et équipements vers Kafr Sinja à Jabal al-Zawiya, dans le sud d'Idlib. Les positions des terroristes à Kafr Nabl, Kafr Sinja, Maraturma, Khan Safre et Al-Bara, dans le sud d'Idlib, ont été pilonnés par l'artillerie syrienne. Les Gilets jaunes se sont rassemblés pour l'acte 67 afin de protester les politiques de l'administration du président français Emmanuel Macron. Les manifestants rassemblés dans le quartier Champéry de la capitale Paris ont marché jusqu'à la gare du Nord. Le rassemblement organisé sous de grandes mesures de sécurité a pris fin sans incident. Des affrontements ont eu lieu à Lille lors de la manifestation qui a rassemblé un millier de gilets jaunes. La police a fait usage de gaz poivre. Des rassemblements ont également été organisés dans d'autres villes de France. Les manifestations qui ont commencé en réaction à la hausse des prix de l'essence et la dégradation des conditions économiques se sont transformées en colère contre l'administration du président Macron. Comme au cours des semaines précédentes, la police a interdit les rassemblements sur les Champs-Élysées, un des symboles importants de la capitale, près de la cathédrale Notre-Dame, fortement endommagée après l'incendie en avril, autour de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Palais de l'Élysée. Les manifestations des Gilets jaunes avaient débuté le 17 novembre 2018. Jusqu'à présent, 11 personnes ont perdu la vie, près de 500 autres ont été blessées, dont 26 ont perdu un œil et 5 un bras à la suite de l'intervention de la police depuis le début des manifestations. 16 militaires de l'armée turque ont été tués jusqu'ici par les forces armées libyennes, a déclaré un haut commandant de l'armée nationale libyenne ANL. Cité par l'édition arabophone de Russia Today, Khaled al-Matoub a menacé le président turc Recep Tayyip Erdogan de tuer un nombre plus élevé de ses militaires. Samedi 22 février, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie combattait l'ANL dirigée par le maréchal Haftar en Libye. Il a reconnu qu'un certain nombre de soldats turcs avaient été tués dans ce pays. Par ailleurs, Fatih Başagha, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale, a déclaré qu'il n'existait aucun obstacle pour l'implantation d'une base militaire américaine en Libye. Fatih Başagha a souligné que les Russes étaient présents en Libye pour assurer leurs propres intérêts dans ce pays ainsi qu'en Afrique et non pas pour prêter main forte à Khalifa Haftar. D'autre part, le GNA, le gouvernement d'Union nationale, a suspendu mardi dernier sa participation aux négociations militaires de Genève suite à l'attaque des miliciens de Haftar contre le port commercial de Tripoli. Et pour fermer le journal, pour la première fois depuis le début de l'année, un bâtiment de guerre américain est entré en mer Noire afin d'améliorer la stabilité régionale. Les militaires russes surveillent ces manœuvres. Le destroyer USS Ross, équipé du système de combat Aegis, est entré en mer Noire pour mener des opérations de sécurité maritime et améliorer la stabilité régionale, a annoncé l'US Navy sur son site. Avec cette visite, nous sommes en train de renforcer systématiquement nos relations avec nos partenaires de la région de la mer Noire. Des opérations régulières en mer Noire sont essentielles pour créer un environnement maritime sécurisé et garantir la liberté de navigation, a indiqué le commandant du navire. La marine américaine précise que les opérations en question sont destinées à renforcer la coopération entre les alliés de l'OTAN et témoignent de la détermination collective à assurer la sécurité de la mer Noire dans le cadre de l'opération Atlantique Resolve. De son côté, le Centre russe de gestion de la défense avait précédemment affirmé qu'il surveillait les manœuvres du destroyer. Il s'agit de la première escale d'un navire militaire américain en mer Noire en 2020. En 2009, les navires américains y étaient entrés 13 fois. Au terme de la Convention de Monroe de 1936, les navires militaires des pays non voisins de la mer Noire sont autorisés à rester dans ces eaux pour une durée ne dépassant pas les 21 jours consécutifs. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Comment les GIs sont cloués aux terres par la résistance? C'est le titre du commentaire politique. Depuis le 5 janvier, date à laquelle le Parlement irakien a voté l'expulsion des troupes US, aucun jour ne s'est passé sans que le Pentagone ne tremble pour la vie de ses au moins 5000 soldats qu'il déplace régulièrement entre la Syrie et l'Irak pour éviter qu'ils ne fassent la cible immobile de la résistance, les forces US étant désormais comme des rats tombés dans le piège. Et pourtant, les États-Unis ont tout fait pour que le contingent US retrouve son statut d'avant l'assassinat du commandant Soleimani. Ils ont tenté surtout à semer le doute sur la légitimité du vote du Parlement irakien sur le retrait US, d'inciter des leaders kurdes ou sunnites à ramer à contre-courant, à lancer des efforts de propagande sur les réseaux sociaux, en ce sens qu'un retrait US du territoire irakien renforcerait le danger d'un démembrement de l'Irak ou d'une résurgence de Daesh. Ils ont allé même jusqu'à faire passer une fausse et biaisée interprétation des propos de la plus importante source d'imitation religieuse d'Irak, l'Ayatollah Sistani. Mais rien n'est fait. La nation irakienne ne supporte plus l'Amérique. Les 12 et 13 février, le Pentagone a donc tenté de se faire une santé en imposant à l'Irak le temps. Mais là aussi, les choses sont toutes relatives. Bagdad ayant fait savoir qu'il ne peut en rien garantir ni la sécurité des soldats US, ni celle des effectifs de l'OTAN. Le dimanche 22 février, l'ambassadeur US à Bagdad s'en est allé frapper à nouveau à la porte du ministère irakien de la Défense, accompagné du chef de la coalition dite anti-Daesh, qu'on pour tenter une dernière fois à inverser la donne sans succès. Samedi, les forces des Hashd al-Shaabi ont continué à opérer dans le sud-ouest de l'Irak en repoussant une vaste offensive des terroristes Daesh à Diyala, tandis que ce dimanche, le commandant de l'opération de Ninive a annoncé le succès d'une nouvelle opération à Mossoul avec en toile de fond l'arrestation du coordinateur de Daesh pour l'étranger ou en d'autres termes, le relais des Américains chargés de trafic de terroristes depuis la Syrie. Tout ceci prouve la parfaite emprise militaire des Hashd al-Shaabi sur le territoire américain ou ce qui revient au même l'encerclement US. Alors, le dernier recours US, s'en remettre aux Kurdes. Une vaste manifestation anticorruption a éclaté le samedi à Soleimaniye. À Soleimaniye, qui devrait, suivant le plan US Erbil, déboucher sur une reprise de Kirkuk, voire un nouveau référendum sur l'indépendance, mais c'est un pari perdu d'avance. Avec ou sans patriotes, les GIs ne sont plus à l'abri ni à Al-Anbar, ni à Erbil. Le nouveau commandant chef des Hashd, Abu Fadek al-Mohamed Davi, est un vétéran de la guerre anti-US, un disciple de première heure de Soleimaniye.